Il y a un domaine qui est tellement important de manière générale dans le monde, mais encore plus dans l'Église, c'est le domaine des relations, les relations humaines. Et souvent, le Seigneur veut bénir son Église, le Seigneur agit puissamment dans son Église, mais il y a des blocages à cause des mauvaises relations. Enfin, je pense que tout le monde l'a vécu un jour. Et on sait à quel point c'est quelque chose d'important. C'est pour ça qu'on va lire un texte toujours dans cette thématique de comment édifier l'Église. Il y a un texte pour moi qui est fondamental, c'est dans Actes 9, verset 31, un texte que je connais presque par cœur et que ça vaut la peine de l'apprendre parce que c'est un secret pour que l'Église grandisse. Je crois que tout le monde veut que l'Église grandisse. On n'a peut-être pas tous la même vision de ce que ça veut dire que l'Église grandisse, mais en tout cas, c'est aussi la vision de Dieu. Et là, c'est très bien indiqué. C'est quoi le terreau favorable pour que l'Église grandisse? Acte 9, verset 31, l'Église était en paix. Voilà, la prédication est terminée. C'est suffisant. Non, on va développer un peu. Mais c'est ça le cœur de... L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie. S'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. La croissance de l'Église est précédée de l'édification de l'Église. Nous avons le devoir en tant qu'Église d'être édifiés, de nous édifier. Et un des ingrédients pour que l'Église s'édifie, c'est la paix. La paix dans l'Église. La paix dans chaque personne, mais la paix dans l'Église aussi. Combien c'est important. Si on va dans Romains chapitre 14, verset 19, on voit qu'il y a encore ce lien très fort entre la paix et l'édification. C'est pas une invention, c'est pas un raisonnement humain, c'est la parole de Dieu qui nous l'enseigne. C'est un principe spirituel. L'édification de l'Église passe forcément par la paix. Ainsi donc, Romains 14, 19, ainsi donc recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Vous voyez que c'est lié. À chaque fois que la Bible parle de paix, et là c'est le cas dans ce verset, elle nous parle avec des verbes d'action. Recherchons. D'accord? C'est pas la paix va vous tomber dessus. Alors que vous allez marcher par hasard, hop, la paix va vous... Non, non, non. Recherchez. Elle parle de verbes d'action parce que la paix n'est jamais gagnée d'avance. Elle n'est pas acquise une fois pour toutes. Alors oui, on a la paix avec Dieu une fois pour toutes à la croix, mais combien de fois on a besoin d'y revenir toute notre vie? Vous confirmez que c'est le cas? Parce que la paix de Dieu, oui, elle est là, merveilleuse, infinie, grandiose, mais c'est nous qui ne sommes pas dans cette catégorie-là, qui avons besoin de revenir sous la source de la paix continuellement. Et ça demande beaucoup de courage, d'effort, de persévérance, d'investissement. Attention, je ne parle pas du salut, hein. C'est que le salut, c'est par grâce. Mais garder la paix de Dieu, maintenir le trésor dans notre cœur de ce que Dieu a fait et ce qu'il veut faire encore, ça demande des efforts. Agir de manière spirituelle dans les relations, ça demande des efforts et du courage. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, on voit souvent des gens qui n'ont pas de courage spirituel, même des pasteurs. Parce que plutôt que de régler les choses dans la paix, on va essayer de cacher, de ne pas dire. Vous savez, la fausse paix. Je me tais, comme ça, personne ne va savoir, comme ça ne va pas faire de problème. Ça, ce n'est pas la paix de Dieu. Ce n'est pas la paix dans l'Église et ce n'est pas ce dont on parle ce matin. Ce matin, on parle justement quelles sont les attitudes, qu'est-ce que dit la parole de Dieu sur les personnes qui veulent être des artisans de paix. Eh bien, la Bible, elle est très claire. Il y a un descriptif. Je ne sais pas comment on appelle ça quand on fait une annonce à la NPE, vous savez, le descriptif de poste. C'est marqué dans la Bible, au travers de plusieurs versets, la fiche de poste, c'est ça? Fiche de poste de celui qui veut être un artisan de paix, ben c'est ce qu'on va voir ce matin. À quoi ressemble un artisan de paix qui bâtit l'Église? Luc 19, verset 41. Vous savez, quand il est question d'artisan de paix, c'est vraiment le sens de l'artisan qui a un matériau précieux entre les mains et qui essaye d'en faire quelque chose qu'il va pouvoir revendre, quelque chose qui a du prix. Et la paix de Dieu, c'est ça, c'est un trésor que l'on a entre les mains et que l'on doit user, utiliser, manipuler avec beaucoup d'attention et d'intelligence pour en faire ce que Dieu veut que nous en fassions. Luc 19, 41, c'est un des rares moments où Jésus a pleuré. Moi, ça m'interpelle toujours quand je vois Jésus pleurer dans la parole. Comme il approchait de la ville de Jérusalem, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Et il dit, si toi aussi en moi en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Le Seigneur pleure parce qu'il y a une ville qui est là et un peuple qui ne sait pas que celui qui est le prince de la paix est en train d'arriver dans cette ville. Les gens cherchent la paix, oui, nous on veut la paix, on veut être délivrés des Romains, on veut avoir le pouvoir, pouvoir faire ce qu'on veut. Mais c'est pas ça la paix. Jésus est là, aux portes de la ville, prêt à la bénir. Et on sait que c'est pas forcément la bénédiction qui va se passer dans les jours et les semaines qui vont suivre ces moments, puisque Jésus va être crucifié même dans cette ville. Et au point qu'il en est à pleurer. Et ce qu'il reproche, entre guillemets, c'est « si tu connaissais la paix, avant de pouvoir être des bâtisseurs dans la paix, nous devons connaître la paix, pas connaître de manière intellectuelle. Oui, j'ai lu dans la Bible tous les versets qui parlent de la paix. Super. Mais est-ce que la paix de Dieu est en toi? Est-ce que tu as fait d'abord la paix avec Dieu? Ça veut dire le pardon des péchés. Est-ce que Jésus a pardonné ton péché? La paix avec Dieu, la réconciliation. Et ensuite, est-ce que tu as la paix de Dieu sur toi continuellement? Ce repos de l'âme qui fait que, quelles que soient les circonstances, il y a un bien-être, il y a une faveur, il y a une grâce de Dieu qui habite dans ma vie. Et oui, il y a des difficultés, oui, il y a des problèmes, mais dans mon cœur, il y a quelque chose de sûr et de solide, c'est la paix de Dieu qui est là. C'est Isaïe qui va dire à peu près la même chose. Il va dire, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Ils prennent des sentiers détournés et c'est des endroits où il n'y a pas de paix. Alors, est-ce que ça vous intéresse d'être des connaisseurs de la paix? Je sais que vous l'avez déjà connu, en fait. Mais de réaliser combien c'est important. On va lire ce verset dans Jérémie 33. On voit que c'est un message qui est dans toute la Bible, hein, déjà dans l'Ancien Testament. Jérémie 33, 6. J'ai lu ce verset, je crois, la première fois, j'avais 19 ans. C'est un passage, une parole qui m'a chamboulé parce que j'ai réalisé la puissance, la bénédiction de ce que mon Dieu proposait. Jérémie 33, 6. « Je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. » Quand Dieu nous donne la paix, quand Dieu veut nous faire connaître sa paix, ce n'est pas juste quelques gouttelettes. C'est un torrent puissant qui coule et nous avons juste à placer nos cœurs vides sous le torrent de la paix de Dieu et nous sommes en paix. C'est merveilleux, non? C'est merveilleux dans ce monde aujourd'hui et de manière pratique de ne pas être inquiet par tout ce qui se passe, mais d'avoir à disposition le torrent, la source abondante de paix et de fidélité. Avant de pouvoir bâtir l'Église avec la paix, il faut que soi-même on soit rempli de la paix de Dieu. Ensuite, il y a un deuxième principe, c'est que l'artisan de paix qui bâtit l'Église doit être un chercheur. On l'a déjà fait allusion, mais dans 1 Pierre 3, verset 10, on va faire plusieurs lectures ce matin, alors faites chauffer vos Bibles et vos doigts. 1 Pierre 3, verset 10, Pierre est en train de citer un psaume. D'ailleurs, un des chants qu'on a pris est basé sur ce psaume, le psaume 34. Et Pierre cite une autre portion, il dit ceci, « Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, » il y en a qui sont dans ce cas, « aimer la vie, voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal, ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. » Pas juste être un chercheur, mais poursuivre la paix. Ça, c'est une expression qui m'emballe. Parce que ça montre que c'est pas un chercheur qui est dans son laboratoire, derrière son bureau, son microscope, en train de chercher la paix soigneusement. Non, 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 c'est quelqu'un qui est un aventurier, qui est en train de courir partout pour essayer de survivre dans la jungle profonde. C'est des images, hein, bien sûr. Je dis pas qu'il faut partir loin. Mais parce qu'il a compris que la paix, c'est ce trésor qui est caché, qui se recherche, qui se poursuit, prêt à tout faire pour l'obtenir. Et avoir en sa possession ce merveilleux trésor. Vous avez remarqué qu'ici, il est question de pourquoi la paix, elle est précieuse. Parce que ça a une conséquence directe sur notre bonheur. Conséquence directe. Ce monde court après ce qui peut le rendre heureux. Même nous, hein, on est tous pareils. C'est l'être humain qui est comme ça. Mais quand on est croyant, on a compris quelque chose. C'est que pour être heureux, il faut être dans la paix de Dieu. Et il faut rechercher. C'est une recherche continuelle. C'est un investissement de chaque instant d'être dans la paix de Dieu au point de dire, quand il y a quelque chose qui nous trouble notre paix, oula, il faut que je réfléchisse, il faut que je m'assoie. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est quelqu'un qui cherche la paix. Quand on sent qu'une relation humaine avec quelqu'un est en train de partir en vrille, on appelle la personne. On discute avec la paix, bien sûr, à la base. On ne laisse pas l'ennemi, vous savez comment l'ennemi, il est rusé. J'ai vu tellement et tellement de fois des gens dans les entretiens qui laissent pourrir des mauvaises idées, des fausses impressions qu'ils ont dans leur cœur. Et quand on arrive pour en discuter, ça n'a rien à voir avec la réalité. Et qu'est-ce qui se passe? Pendant des mois, ou des années même, certains ont été malheureux. Et quand on regarde, quand on creuse, c'était pour rien. Parce qu'il a mal compris quelque chose. Je vous donne un exemple de mauvaise compréhension qui est arrivé tout à l'heure. Comme le frère Gadrois va venir la semaine prochaine, on avait proposé à lui et son épouse qu'ils viennent manger après. Voilà, bon, rien d'exceptionnel. Hein. Et en fait, on ne s'est pas bien compris sur le dimanche, et lui, il pensait que c'était aujourd'hui qu'il venait manger. Donc ce matin, il me dit, c'est bon, j'arrive. Alors mon épouse n'a pas pu venir, mais on arrive. Vous savez, l'équiproquo. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai appelé tout de suite, j'ai dit, oh, je suis désolé, mais on s'est mal compris. Alors, il n'y a pas de souci si tu veux venir manger. On a toujours de quoi inviter. Mais voilà. Et vous comprenez? On peut laisser pourrir les situations, ou alors on peut tout de suite dire, ben voilà, on ne s'est pas compris, excuse-moi, peut-être que j'ai mal expliqué la chose, mais voilà ce qu'il en est. Ça paraît tellement simple, mais c'est ça, rechercher la paix. Parce que si dès le début, on désamorce les choses qui peuvent poser problème, il n'y a plus de problème, en fait. Si on désamorce les bombes, la bombe, elle n'explose plus. Vous comprenez? Celui qui veut bâtir l'Église doit être un chercheur de paix, mais aussi un conservateur. À quoi ça sert que l'aventurier aille chercher le plus beau des trésors, comment dire, l'objet en or qui est dans le temple le plus reculé, pour ensuite arriver chez lui et se le faire voler? Il faut le conserver, il faut le garder. Et c'est quelque chose de biblique aussi, ce principe de garder la paix, de travailler à sa conservation. Quand on lit Éphésiens chapitre 4, verset 1er, Paul est là en train d'exhorter, de rappeler à quel point c'est précieux cette paix, et de cette attitude qui contribue aussi à conserver la paix. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Vous avez bien lu avec moi, vous efforçant. La Bible nous demande de faire des efforts. J'aime ces versets parce qu'ils ont bien équilibré parfois une vision de la foi qui est un peu légère, en disant « c'est la grâce de Dieu, les choses arrivent comme elles arrivent, j'attends que le Seigneur conduise tout ». Oui, mais de notre côté, il est dit « en tant que personne qui veut bâtir l'Église, je dois m'efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix ». Donc il y a un effort, il y a vraiment un investissement personnel et un courage qui est capable, quand je sens que mon frère a quelque chose contre moi, je n'attends pas les bras croisés que les choses se passent, je vais voir mon frère. Ou alors que moi j'ai quelque chose contre lui, c'est pareil, c'est dans les deux sens. La Bible, elle prend tous les cas de figure d'ailleurs. Souvent, il y en a qui disent « ah non, mais c'est pas moi qui ai tort, c'est lui qui a tort, donc j'attends qu'il vienne ». Non, la Bible ne dit pas d'attendre, elle dit d'aller. C'est ça, chercher la paix. Et ne pas laisser les situations s'envenimer. Mais je vous le dis, devant Dieu, ça demande beaucoup de courage. Et la foi du croyant dans le 21e siècle, c'est ça, on est 21e, la foi du croyant aujourd'hui, elle se voit dans ces choses-là, qui semblent bénignes, mais qui sont capitales. Parce que combien de fois l'ennemi a réussi à s'infiltrer et à diviser parce qu'on n'a pas marché dans le chemin de la paix. Et c'est tellement important que nous soyons ces artisans de paix. Vous allez me dire, La paix dans mon cœur, c'est facile. La paix avec Dieu, c'est facile. Il suffit que je vienne devant lui, je demande pardon. Mais la paix avec les autres, c'est autre chose, c'est un autre travail. Mais en fait, on s'aperçoit que c'est lié. Oui, c'est facile de se mettre à genoux et de dire « Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, je veux revenir, je veux que ta paix soit à nouveau dans mon cœur. » C'est facile. Mais quand on est tellement en paix avec Dieu, ça ne peut pas rester que en nous. Je ne peux pas être tellement en paix avec Dieu et pas en paix avec mes frères. C'est pas possible. Alors, sinon, c'est pas la paix de Dieu que j'ai reçue. C'est la paix intelligence mais, ou une fausse paix. Mais quand la paix de Dieu, la source abondante de paix et de fidélité jaillit en moi, ça coule sur mes frères et sur mes sœurs. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous avez vu qu'il est question dans le verset d'avant qu'on met au même plan le fait de faire le bien et de s'éloigner du mal? C'est au même plan que la paix, de rechercher la paix. Est-ce que c'est possible de dire ce matin, oh, je suis fatigué, j'ai pas envie de m'éloigner du mal. Ce matin, je me suis levé du pied gauche, donc je vais pas faire le bien. Ça tient ça comme argument? Ben non, faire le bien et s'éloigner du mal, ça c'est continuel. Mais la Bible elle dit recherchez la paix comme vous faites le bien ou vous éloignez du mal. C'est la même chose. Je peux pas dire, ah, ce matin, je suis fatigué, je vais pas rechercher la paix. Là, c'est non, non, c'est pas possible. C'est tellement important. Non seulement pour moi personnellement, pour mes frères et mes sœurs, pour le Seigneur, c'est important pour tous. Pour le monde a besoin de voir des hommes et des femmes qui savent ce que ça veut dire que marcher dans la paix, tout simplement. Et vous avez remarqué les qualités qui sont soulignées, l'humilité, la douceur, la patience. Alors je sais que vous en avez plein, mais je le dis pour moi, l'humilité, la douceur, la patience. Supporter les autres avec amour. C'est ça le matériau que l'artisan de paix utilise. Et s'il y avait d'autres choses qui sont contraires, je m'en éloigne justement. L'artisan de paix qui bâtit l'Église, c'est aussi un constructeur. On va dans un texte qui est très connu, Matthieu chapitre 5. Matthieu 5, verset 8. Alors j'ai choisi constructeur, mais en fait on pourrait employer beaucoup de mots. Des versions d'ailleurs sont différentes par rapport à l'expression. Certains disent artisans de paix, certains disent procurer la paix, faiseurs de paix, fabricants, créateurs, producteurs. Mais tout ça c'est pareil. Une version dit même pacificateurs. Matthieu 5, 8, heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Alléluia, ça fait du bien. Heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les pacificateurs, ceux qui, quand ils arrivent quelque part, c'est la paix qu'ils diffusent. Les pacificateurs, pas la paix qui... Je cogne sur mon frère, comme ça il peut plus parler, j'ai la paix, c'est pas ça. Non, non, la vraie paix de Dieu. Vous savez, on sait quand quelqu'un a la paix de Dieu et la communique. Ça se sent. On sait ceux qui amènent les soucis aussi, ça se sent aussi. Mais on sait... ceux qui diffusent la paix, les pacificateurs, les constructeurs de paix. J'arrive dans un endroit où il y a plein de choses à démêler, mais je construis, je tire par là, parce qu'il faut dénouer ce nœud, après celui-là, et ça amène la paix. Voilà ce que le Seigneur veut. Et vous avez vu ? Car ils seront appelés fils de Dieu. Seigneur, je suis ton enfant parce que j'ai cru. Oui, c'est bien. Mais qu'est-ce que la foi produit dans ton cœur aujourd'hui ? Est-ce que c'est la paix? Celui qui procure la paix. Non, il n'y a que Dieu qui me donne la paix. Mais non, ce passage est là pour montrer qu'on est tous appelés à donner ce que le Seigneur nous donne en abondance. Celui qui construit avec la paix, il est en train de bâtir l'Église. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cet homme qui s'appelle Télémaque. C'était un moine qui a vécu en Orient. Et qui avait choisi une vie ascète. Donc il était dans un lieu retiré, il mangeait très peu, il jeûnait souvent. Voilà, il s'était éloigné vraiment des choses de la terre pour s'approcher de Dieu. Et un jour, il a estimé qu'il avait fait son temps par rapport à ça. Il a décidé de revenir dans son pays. Et pour cette raison, il est passé par Rome. Et à Rome, alors qu'il marche dans la ville, cet homme voit une excitation, voit beaucoup de gens qui courent et qui se dirigent vers les endroits où il y avait les jeux du cirque, vous savez. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'il y avait le combat à mort des gladiateurs. Et la foule en délire était là, prête à voir du sang couler. Et cet homme qui lui était dans cette vie très simple et qui était très éloigné de tout ça, il n'a pas compris du tout ce qui est en train de se passer. Et lorsqu'il a commencé à voir ces hommes qui dévouaient leur vie à mourir, vous savez ce qui se passe hein, dans ces combats de gladiateurs, il y a un vainqueur et il y en a un qui meurt. Il perd, mais il meurt. Et son sang coule. Et cet homme était horrifié de cette pensée. Alors, avant que le combat ne commence, il est descendu de l'arène jusque sur le terrain et il s'est mis entre les hommes. Avec juste ses mains, alors qu'ils avaient les armes, les glaives et tout ce que vous voulez, les armures, cet homme juste a dit « Mais non, mais ne faites pas ça. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» Savez-vous ce qui s'est passé ? La foule était venue voir du sang couler. La foule voulait qu'il y ait de l'action et ne comprenait pas cet homme qui gâchait l'ambiance. Alors ils ont pris des pierres et ils ont commencé, dans ce lieu, à jeter des pierres contre Télémaque. Et cet homme, qui n'avait rien fait de mal en soi, est mort là. Et les combats ont repris comme si de rien n'était. Et on a l'impression que c'est un échec total, cette histoire. Mais quelques jours après, l'histoire est remontée jusqu'à l'empereur Flavius Honorius. Vous savez que dans ce temps-là, une sorte de christianisme, on va dire, parce que ce n'était pas vraiment le christianisme, mais il y avait déjà la sensibilité du christianisme qui avait été jusque même dans les empereurs. Et ça faisait des siècles qu'ils essayaient, toutes sortes de personnes essayaient de convaincre les empereurs qui se sont succédés d'arrêter ces jeux sanglants. Et pendant des siècles, ils ne sont jamais arrivés. Mais ce jour-là, l'empereur, il a entendu cette histoire. Il a été touché par le témoignage de Télémaque. Et il a rapidement écrit un édit pour que les jeux des gladiateurs soient totalement arrêtés. Il a fallu attendre la mort de quelqu'un pour que les gens comprennent enfin ce que ça voulait dire la paix. Et cet homme, il croyait tellement en la paix qu'il a donné sa vie pour ça. Ça, c'est un pacificateur. Alors, ce n'est pas question de s'offrir en sacrifice, hein, on comprend bien. Mais est-ce que nous avons compris l'importance de la paix ? Est-ce que nous avons compris que c'est ce que nous devons faire continuellement ? Et quand on le fait avec l'amour du Seigneur dans notre cœur, ce n'est pas un poids. Ce n'est pas difficile. Parce que c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne à faire. Et si on n'en a pas la force, on vient puiser là où le Seigneur nous dit de puiser, tout simplement. On le chante, de la croix la grâce coule. C'est facile à chanter. Mais quand on n'est pas dans la paix avec quelqu'un, est-ce qu'on dit « Seigneur, donne-moi ta grâce, donne-moi ta paix, afin que j'aille me réconcilier avec mon frère ?» C'est ça. Chanter de la croix la grâce coule, même un pécheur peut le chanter. Hein. Mais ça ne veut rien dire. Mais quand on le chante et quand on laisse la grâce de Dieu couler en nous, on ne peut pas rester en bis-bis avec quelqu'un. On se réconcilie par la grâce de Dieu. L'artisan de paix, c'est quelqu'un qui construit avec la paix. C'est aussi un cultivateur. Jacques 3,18, je le lis pour vous, nous dit « Le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui travaillent à la paix. » Nous devons cultiver, construire et cultiver la paix dans notre cœur. Cultiver, ça veut dire les pensées, les raisonnements. Est-ce que ça contribue à la paix ? Est-ce que c'est favorable pour la paix ? Est-ce que ce que je suis en train de penser sur telle ou telle personne, ça m'encourage ? Ou alors au contraire, ça me fait prendre de la distance ? Combien c'est important de cultiver notre cœur ? Comment on fait pour cultiver ? Il y a des spécialistes ici, hein, je suis sûr, qui ont tous des merveilleux potagers. Est-ce qu'on regarde le potager, les bras croisés, et on encourage, allez, vas-y, pousse, pousse. C'est ça? Ou alors, il y a des mauvaises herbes qui poussent souvent. Surtout là où on n'a pas envie qu'ils poussent, ils y sont. Et qu'est-ce qu'on fait? On doit se mettre à quatre pattes et arracher, soigneusement, petit à petit, couper ce qui doit être coupé, etc. Et quand on fait ça, oui, après ça pousse tout seul, mais il y a eu un travail. Cultiver la paix, c'est ça aussi. Il y a des mauvaises pensées qui sont là en nous. Il y a des mauvaises, parfois mauvaises paroles qui sont là. Et il faut apprendre à arracher tout ça, à couper ce qui est mauvais, à faire en sorte que les bonnes semences poussent et que les mauvaises soient enlevées. Par la grâce de Dieu, bien sûr. Romains chapitre 10, verset 15, nous parle de cet artisan de paix qui est aussi un communicateur, quelqu'un qui annonce la paix. Alors ce qui est drôle, c'est que celui qui annonce la paix, on ne parle pas de sa bouche, on parle de ses pieds. Ça, c'est la parole de Dieu. Comment il y aura-t-il des prédicateurs, Romains 10, 15, s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Nous sommes appelés à annoncer, à communiquer la paix. Et oui, pourquoi il parle des pieds? Parce qu'en fait, on sait que ce n'est pas seulement entre nous qu'il faut la communiquer, mais c'est partout où nous allons. C'est ça l'image. Partout où le Seigneur nous conduit dans ce monde, nous devons annoncer la paix. Mais bien sûr, à plus forte raison dans l'Église et à plus forte raison avec des croyants. Nous devons être des communicateurs de la paix. C'est quelque chose dont le monde a besoin. Le monde a besoin d'entendre des paroles de paix. Vous êtes d'accord avec ça? C'est clair. Avec toutes les paroles négatives, mauvaises que l'on entend, le monde a besoin d'entendre des gens qui parlent de la paix, qui annoncent la paix. Pas seulement d'ailleurs par nos bouches, mais bien sûr par nos vies. Un autre passage nous parle, je ne le fais que le citer, de l'évangile de paix, la bonne nouvelle de la paix. Vous savez ce que c'est? C'est dans les armes du croyant. L'armure. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Nous devons communiquer la paix avec zèle. C'est ce que nous dit le verset, hein? Communiquer la paix avec zèle. Oui, oui, mais pas un mauvais zèle. Pas un zèle amer. Pas un zèle qui harcèle, qui met la pression sur les gens. Ça, c'est pas ce qu'il est dit. Non, il est question du zèle qui repose sur l'évangile de paix. Et là, on voit que le Seigneur, il sait bien équilibrer les choses. Un dernier verset qu'on lit ensemble, c'est dans Proverbe 12, qui reste dans cette pensée de communiquer la paix. On est appelé à communiquer et aussi à conseiller. L'artisan de paix qui bâtit l'Église est aussi un conseiller de la paix. Proverbe 12, verset 20. Vous avez vu que ça fait déjà une belle fiche de poste, hein ? La tromperie est dans le cœur de ceux qui méditent le mal. Mais, c'est bien quand il y a des mais comme ça, hein, mais la joie est pour ceux qui conseillent la paix. Nous sommes appelés à conseiller la paix, à être des conseillers de paix. Et on sait que dans plein de situations de nos vies, là où nous rencontrons des hommes et des femmes, même sans parler du Seigneur, parfois on peut amener la paix. Parce qu'on va donner un conseil sage, intelligent, pesé. Et on ne se laisse pas tromper par les raisonnements de la terre. Parce que le Seigneur nous permet d'être des hommes qui ont la tête dans le ciel, mais les pieds sur terre. Conseiller la paix. Je me souviens de cet homme. Peut-être que je vous en ai parlé, je ne sais plus. En tout cas, il m'a dit un jour, « Pasteur, c'est merveilleux, j'ai la paix de Dieu. » Ah oui, comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Depuis que j'ai choisi de divorcer, alors tout va bien. Alors, presque ça pourrait se comprendre s'il était dans le cas où sa femme n'était pas au Seigneur, d'accord? Mais ce n'était pas le cas. Sa femme, elle venait à l'église, elle aimait le Seigneur, elle cherchait du secours, elle avait demandé de l'aide pour son couple. Et lui, ah, ça y est, j'ai décidé de divorcer, tout va bien. C'est triste. Mais vous savez que le conseiller de paix, ben, des fois, il est obligé de dire que la paix qu'on a, ce n'est pas la paix de Dieu. Je l'ai dit, je l'ai expliqué, tu sais que parfois, on peut ressentir la paix, mais c'est pas la paix avec Dieu, c'est la paix avec le diable. Vous savez, le diable, des fois, il nous laisse tranquille quand on fait les mauvais choix, quand on s'éloigne des choses de Dieu. Il nous laisse tranquille. Il va pas nous embêter. D'habitude, tous les matins, quelqu'un nous appelle à telle heure pour nous réveiller, et là, le dimanche matin, on décide de pas venir à l'église, zéro coup de fil. Parce qu'il y en a un qui s'arrange pour pas qu'on soit embêté. Vous comprenez le principe? Et je lui ai dit, mais tu sais, on peut être en paix avec le diable. C'est pour le faire prendre conscience que ce qu'il disait, c'était pas selon la parole de Dieu. J'ai donné cet exemple de Samson. Samson, c'était l'ennemi des Philistins, mais il a fait la paix avec Dalila. Et vous savez ce qui s'est passé? Est-ce que c'était la paix de Dieu quand il était sur les genoux et qu'elle lui caressait les cheveux? Ah, il devait être dans la paix, hein? Ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé après? C'est... mieux dorloté pour mieux tomber dessus. Hein. Elle l'a livré, après lui avoir coupé les cheveux, avoir connu son secret, elle l'a livré à ses ennemis. C'est ça que nous voulons, non? C'est tellement important d'être des conseillers de paix et d'entendre les conseillers de paix. La semaine dernière, on a eu l'occasion d'entendre le pasteur Christian Lévy, je ne sais pas si certains le connaissent, qui nous a raconté une expérience qu'il a vécue. Justement, un couple l'appelle en urgence. C'était le samedi soir assez tard, le couple l'appelle, « Venez pasteur, on a besoin de vous ». Donc tout de suite, il y va. Et il ne sait pas exactement ce qu'il attend, mais il y va de tout son cœur. Il arrive, le couple l'accueille dans sa maison, les enfants sont là au bord de l'escalier, et ils disent « Pasteur, nous voulons que vous soyez le témoin de notre divorce ». Et cet homme était en train bien sûr de les exhorter en disant mais non, mais qu'est-ce que vous faites? Le Seigneur peut vous aider. Mais pendant qu'il est en train de parler de ça, il commence à s'insulter, commence à se crier dessus, commence à se mettre en colère, à tel point que les enfants en pleurs courent à l'étage et s'enferment dans leur chambre. Ils étaient dépités et eux, ils étaient là dans les décibels en train de crier devant le pasteur, devant tout le monde. Et le pasteur ne savait pas quoi faire. Il s'est mis à crier à Dieu. Vous savez, quand on ne sait pas quoi faire, on fait ça. Hein. Seigneur, mec, je ne peux rien faire. Ils savent très bien ce qu'il faut faire, mais ils ne sont pas disposés, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux agir. Et puis, alors qu'il est en train de prier, dans son cœur, le Seigneur lui montre une image. C'est comme si le diable était là au-dessus de leur vie et faisait d'eux la marionnette. Et il était en train d'animer l'un contre l'autre. Et ils étaient en train de se dévorer l'un l'autre parce qu'il y en avait un derrière qui faisait ce qu'il voulait. Et alors qu'il pense à cette vision qu'il a, il leur dit avec autorité, « Maintenant, ça suffit !» Donc, ils sont saisis par la parole. Et puis, est-ce que vous ne vous rendez pas compte que vous êtes manipulés par le diable, qu'il est en train de faire de vous ce que vous voulez? Vous êtes en train de vous détruire l'un l'autre et vous êtes en train de détruire vos enfants. Alors, repentez-vous simplement. Et touché par cette parole, saisi, comme si les yeux se sont ouverts sur ce qui est en train de se passer, ils commencent à tomber à genoux et à pleurer sur leurs péchés, à crier à Dieu, à se repentir. Et le pasteur, les voyant ainsi, leur donne 2-3 conseils et puis s'en va. Et puis, le lendemain, c'est le culte. Ils voient arriver à l'église un couple qui sont bras dessus, bras dessous, les regards, les yeux dans les yeux, amoureux, et qui disent « Pasteur, on a passé presque toute la nuit à prier, à pleurer, à se demander pardon, à demander pardon à nos enfants. » Et maintenant, le Seigneur a guéri notre couple. Le Seigneur nous a restaurés. Et ce qui s'est passé, pasteur, c'est que ce matin, on a réfléchi, mais on s'est dit, mais les voisins d'à côté, là, nos amis, ils sont en train de divorcer aussi. On va aller leur parler du Seigneur. Et ils sont allés parler du Seigneur en disant, mais nous, on a vécu, nous, le Seigneur a guéri notre couple. Le Seigneur peut faire pareil pour vous. Et donc, derrière le couple, main dans la main, se tenait l'autre couple, les voisins qui étaient là, qui cherchaient à les choses de Dieu, qui cherchaient du secours auprès du Seigneur. Des personnes qui ont écouté des conseils de paix sont devenues elles-mêmes des conseillers de paix pour les autres. C'est exactement le programme de Dieu pour nous, pour chacun d'entre nous. Dieu veut que nous soyons tous, les uns et les autres, des conseillers, des artisans, des connaisseurs, etc. On ne va pas refaire la prédication, mais de la paix. Comment l'Église peut-elle grandir, bâtir, s'édifier s'il n'y a pas la paix? Vous comprenez pourquoi c'est important que ensuite on ait ce temps devant la table du Seigneur pour que chacun devant Dieu dise « Seigneur, je veux pas prendre ce pain et ce vin par habitude, mais je veux m'engager à la paix. Je suis déjà dans le combat peut-être, merci Seigneur. Je veux renouveler mon alliance de paix. » Vous savez que le Seigneur, il fait envers nous une alliance de paix. Est-ce que nous sommes partie intégrante de l'alliance ou pas? Ça nous appartient, ce matin, à nous de décider. Mais avant de laisser la place à Patrice pour qu'il nous lise ce texte, on va prier le Seigneur. Éternel, merci parce que ta parole est précise et claire quant à notre rôle pour édifier l'Église. Tu connais, Seigneur, les combats. Tu connais, Seigneur, l'ennemi qui veut diviser, qui veut freiner, qui veut empêcher que ta grâce, ta bénédiction, ta justice tombent du ciel et produisent du fruit. Seigneur, mais nous désirons cela. Tu as appelé, tu as dit à ton peuple, car c'est des projets de paix et non de malheur auxquels tu nous appelles. Seigneur, nous voulons ces projets-là de paix et nous voulons être ces artisans de paix. Seigneur, ce matin, tu connais nos cœurs, nos vies. Tu sais si nous le faisons déjà ou pas. Peu importe, mais Seigneur, nous voulons ensemble, d'un même cœur et d'une même âme, et personnellement, nous investir dans cette divine recherche. Être de ceux qui procurent la paix, Seigneur. Être une église qui procure la paix. Ô Éternel, aide-nous à le vivre de manière personnelle, déjà dans nos familles, dans nos voisinages, dans notre travail de tous les jours. Seigneur, aide-nous à être de ces artisans de paix. S'il y avait quelque chose en nous, s'il y avait quelque chose contre quelqu'un, Seigneur, aide-nous à régler. S'il y avait une mauvaise pensée, de l'amertume, oh, que ton Saint-Esprit vienne déverser cette grâce guérissante, Seigneur, dans les cœurs. Ce matin, nous nous attendons à toi. Nous nous plaçons devant toi et nous te disons, Éternel, fais ce que tu veux de nos vies. Fais ce que tu veux de ton peuple. Fais ce que tu veux de ton Église, afin qu'elle te glorifie sur cette terre. Seigneur, toi qui es le prince de la paix, nous voulons honorer ton nom. Amen.